Chers amis, bonjour. Donc nous sommes le 1er mars. Je suis heureux de vous retrouver pour la suite de ce cours sur Saint Paul. C'est notre quatrième leçon. Alors vous vous souvenez que dans les trois premières, nous avions fait une introduction. Et puis qu'à la fin de la troisième leçon, déjà, je vous avais introduit au contexte de la lettre de Paul, la première aux Thessaloniciens. Et c'était dans les feuilles que vous avez reçues. Vous avez une feuille de route globale du cours, c'était la page 10. Et puis vous aviez une page numérotée 11 avec une carte pour voir le parcours de Paul et quelques citations des Actes des Apôtres où on peut suivre le parcours de Paul. Et la conclusion, c'en était que Paul arrive à Corinthe après, dans son deuxième voyage, un long périple qu'il a mené de Antioche à travers l'Asie mineure. Il est passé vers l'Europe, à Troas, et de là, il a gagné les villes du nord de la Grèce, Philippe de Macédoine, Amphipolis, Thessalonique, il a évangélisé les Thessaloniciens, et puis descendant de ville en ville, parce qu'il était à la fois reçu, et la parole était accueillie, mais aussi il y avait des contradictions. Et de ville en ville, poursuivi parfois par des contradicteurs, il descend ainsi de Philippe à Thessalonique, Bérée, il aboutit à Athènes, et à Athènes, Silas et Timothée sont laissés un temps plus au nord à Bérée, ils rejoignent Paul, et à ce moment-là, Paul renvoie Timothée à Thessalonique parce qu'il a quelques inquiétudes. Est-ce que la foi des Thessaloniciens, qui est sujette à pression de la part de judaïsants qui refusent Paul, eh bien, est-ce que cette foi tient bon? Et lorsque Timothée revient de Thessalonique, porteur de bonnes nouvelles, à ce moment-là, Paul est vraiment soulagé et de Corinthe écrit sa première lettre aux Thessaloniciens, qui est sans doute le premier écrit du Nouveau Testament, puisque les lettres de Paul sont antérieures aux Évangiles et elle est rédigée vers l'an 51, donc à partir de Corinthe. Voilà pour un bref rappel du contexte dans lequel est écrite la lettre. Alors, si vous prenez la page 13, vous avez une proposition de plan. Et nous allons commencer par discerner un peu les grandes parties de la lettre. Nous le faisons en remarquant que la lettre peut se laisser diviser en deux parties. Sur base de quelles observations? La lettre présente 5 chapitres. Si on regarde ces passages qui sont repris sur votre page 12, si l'on regarde l'adresse et la salutation de grâce initiale, comporte bien sûr le souhait de paix à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu et Père dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous grâce et paix. Et tout à la fin de la lettre, on va retrouver comme en inclusion, comme on dit, finale, c'est-à-dire pour marquer respectivement le début et la fin d'un passage, en inclusion finale, un souhait qui engage aussi la paix et la grâce. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie, etc. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ça, c'est l'encadrement global de la lettre à l'enseigne de la grâce et de la paix. Par ailleurs, dans cette adresse du tout début, il est fait mention avec insistance de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. À l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vos grâces et paix, et puis un peu plus bas, dans l'action de grâce, nous rendons grâce, etc., de nouveau, votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu, de notre Dieu et Père. Or, cette mention initiale, soulignée, du Père et du Seigneur Jésus-Christ, revient dans ce qui apparaît à la fin du chapitre 3, comme une première vague de souhaits conclusifs, comme s'il y avait là un moment relais dans la lettre, à la fin du chapitre 3. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige vers vous notre chemin, et vous, que le Seigneur etc., qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la mention du Père et du Seigneur Jésus-Christ, même à la fin du chapitre 3. Donc à ce titre, on peut se demander si l'ensemble 1 à 3 déjà ne forme pas un premier sous-ensemble de la lettre. Et d'ailleurs, cette première vague de souhaits conclusifs engage le souhait de trouver les Thessaloniciens avec le cœur irréprochable en sainteté, à la fin du chapitre 3. Et cette double notion du caractère irréprochable et de la sainteté revient dans la conclusion dernière de la lettre, à la fin du chapitre 5. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie, que votre esprit soit gardé irréprochable pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a là des jalons, le tout début de la lettre, la fin du chapitre 3, la fin du chapitre 5, qui sont marqués par des expressions typiques, et il faut confirmer dans cette intuition qu'il y aurait un premier sous-ensemble de 1 à 3, et puis un deuxième, des chapitres 4 à 5. Ce qu'on trouve à l'intérieur de l'ensemble des chapitres 1 à 3 présente une certaine homogénéité. C'est aussi un critère ici, hein, pour discerner une partie, est-ce qu'il y a un accent, une thématique qui l'unifie. Or, c'est le cas, il y a une tonalité d'action de grâce de la première partie. Dans chacun des trois chapitres, il y a cette mention d'une action de grâce, qui d'habitude se trouve après l'adresse, mais ici elle ne se trouve pas seulement à la suite de l'adresse, on la retrouve au chapitre 2, au chapitre 3. Au chapitre 1, c'est l'action de grâce habituelle, nous rendons grâce toujours à Dieu pour vous tous, etc. Et là, l'action de grâce, on le verra, porte sur le souvenir, car Paul, de la foi, l'amour, l'espérance, déjà des Thessaloniciens. Puis au chapitre 2, de nouveau, une expression d'action de grâce. Et voilà pourquoi, nous aussi, nous rendons grâce à Dieu sans relâche de ce que, etc. Et l'action de grâce porte sur le souvenir de leur conversion première et de leur courage, alors à entrer dans la foi, malgré des épreuves. Et au chapitre 3, quelles actions de grâce pouvons-nous rendre à Dieu à votre sujet? Là, c'est l'action de grâce qui monte sur les lèvres de Paul, précisément au moment où il vient de recevoir de bonnes nouvelles des Thessaloniciens par l'entremise de Timothée. Donc, on a là, dans ces trois chapitres, un genre littéraire qu'on appelle, on a annoncé cela dans l'introduction, de la narratio. Paul raconte, se souvient et se remémore de déjà tout son passé avec les Thessaloniciens, depuis le moment où il a fondé la communauté jusqu'au moment où il reçoit des bonnes nouvelles par Timothée, et tout cela dans une tonalité d'action de grâce. Si l'on regarde maintenant les chapitres 4 et 5, là, on voit qu'il y a, de manière décidée, une tonalité exhortative. Plusieurs expressions vont dans ce sens, que ce soit le verbe « exhorter » lui-même, qui se dit en grec « parakalein ». C'est la racine de la paraklèse, le paraklé. « Kalein » en grec veut dire « appeler ».« Para » veut dire « auprès ». Paraclès, le paraclé, ça peut désigner celui que l'on appelle près de soi pour être fortifié, exhorté, défendu, comme on le voit dans Saint Jean, le paraclé sera votre défenseur. Donc parakalein, c'est un verbe fort et riche qui a le sens de exhorter, fortifier, soutenir, encourager, consoler. C'est du reste le verbe du début du livre de la consolation dans le prophète Isaïe, au chapitre 40. Vous vous souvenez, consoler, consoler mon peuple, dit le Seigneur, etc. C'est dans la traduction grecque de la Bible qui existait déjà à l'époque de l'Ancien Testament, qui existait déjà à l'époque de Paul, et bien c'est ce verbe parakalein. Donc un verbe fort qui va courir dans toute cette partie de tonalité exhortative. Nous exhortons, nous, à un certain moment, c'est nous vous demandons, frère, ou bien en 4.2, vous savez quelles instructions nous vous avons données, etc. Et ce qui est typique aussi d'une partie exhortative, c'est le petit vocable récurrent frère, pour soutenir l'attention de ceux que l'on veut ainsi exhorter. Vous le remarquerez, je l'ai souligné là à 5 reprises dans ces deux chapitres 4 et 5. Au reste, frères, nous vous le demandons, ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Là, vous voyez que le vocable de frère n'est pas associé à une exhortation, mais nous voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, parce qu'on va trouver là un petit passage davantage doctrinal sur la question de la résurrection des morts que se posaient les Thessaloniciens. Mais donc, globalement, un ensemble à l'enseigne d'une tonalité exhortative dans cette seconde partie. Donc, deux parties, 1 à 3, plutôt d'action de grâce, et dans le récit qui est fait de ce qui s'est passé, et puis, en les tournant vers le présent et le futur, la deuxième partie de tonalité exhortative. Pour percevoir que la lettre est bien construite, on peut considérer aussi la finale de chacun des 5 chapitres. Vous savez que la division en chapitres n'est pas au départ dans le texte grec. Elle a été mise en place, effectivement, au XIIIe siècle. Certains langues tombent. Et puis la subdivision en versets, elle, a été définitivement mise au point au XVIe siècle, à l'instigation d'un imprimeur, Robert Estienne. Mais donc, cette division en chapitres, qui n'était pas dans le texte initial, elle a été faite plus tard, et elle a été faite dans l'ensemble de manière judicieuse. C'est les gens qui savaient lire le texte déjà. Et un indice de cela, c'est que chacun des chapitres a repéré une expression, toujours, concernant la venue du Seigneur, qui semblait être une inquiétude des Thessaloniciens. Quand viendrait le jour du Seigneur, le jour de sa venue? Dans un premier temps, il semble que les Thessaloniciens et Paul lui-même l'aient attendu de manière assez prochaine. Puis petit à petit, on a compris que le jour du Seigneur prendrait peut-être quelque temps avant d'advenir. Mais dans le contexte d'alors, on attend ardemment la venue du Seigneur. Ainsi, vous voyez, chaque finale de chapitre est ponctuée par des expressions qui vont dans ce sens. À la fin du chapitre 1, vous vous êtes tourné vers Dieu, abandonnant les idoles pour être asservi au Dieu vivant et véritable, et attendre des cieux son Fils Jésus, qu'il a relevé d'entre les morts. Déjà l'annonce d'un petit développement sur ce sujet, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Attendre la venue de Jésus comme nous gardant de craindre le jugement final. La fin du chapitre 2, quelle est en effet notre espérance, notre joie, la couronne dont nous nous vanterons devant notre Seigneur Jésus lors de sa venue, n'est-ce pas vous? Fin du chapitre 3, que le Seigneur affermisse vos cœurs pour qu'il soit irréprochable en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Fin du chapitre 4, début du chapitre 5, nous les vivants qui serons restés pour la venue du Seigneur, Paul est en train de considérer le sort de ceux qui se sont déjà endormis dans la mort, mais aussi de ceux qui seront encore vivants au moment de la venue du Seigneur. Et il espère en être. C'est cela qu'il désigne en disant « Nous les vivants qui serons restés pour la venue du Seigneur. » Et puis la soudaineté de cette venue comme un voleur dans la nuit, ainsi vient le jour du Seigneur, dans la ligne de ce que Jésus disait déjà dans l'Évangile, et à la fin du chapitre 5, ce souhait final, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, que pour votre être gardé irréprochable, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est typique de la première aux Thessaloniciens, chacun des petits chapitres se termine sur la perspective du jour du Seigneur, de sa venue. Voilà pour une idée du plan dans une première division pour ce qui est d'envoi de parties. Puis, c'est en entrant dans le texte que nous allons voir alors les différentes subdivisions du corps de la lettre, différentes subdivisions à l'intérieur de ces deux grandes parties discernantes. Avant d'y arriver, je vous redis un mot, j'aurais pu le dire plus tôt, mais de l'importance de Thessalonique. Vous voyez sur votre carte où se trouve, vous l'avez repéré, la ville de Thessalonique. Là, au nord de la Grèce, en Macédoine. C'est une ville déjà ancienne, qui a un certain passé et qui est d'une grande importance à l'époque de Paul. Sa situation géographique, elle est située là, au fond d'un golfe de la mer, où elle a un port bien protégé. Et donc c'est un port sûr où les navires peuvent faire escale. Et donc pour les communications par voie maritime, c'est un atout pour cette ville. Par ailleurs, du point de vue des voies de communication terrestres, il y avait une voie romaine qui reliait, à partir de Thessalonique, la mer Égée, c'est-à-dire la mer qui se trouve entre l'Italie et l'Asie mineure, la Turquie actuelle, eh bien, cette voie, traversant le haut de la Grèce, reliait cette mer à la mer Adriatique, qui se trouve de l'autre côté, la mer entre l'Italie et la Grèce. Donc, une situation stratégique du point de vue des communications aussi bien maritime que terrestre. Donc une situation favorable. C'est une ville qui a été fondée au IVe siècle, et puis au cours de son histoire, elle a connu la domination macédonienne, Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, comme au IVe siècle avant le Christ, puis elle a connu la domination romaine. Avec un moment important, vers l'an 150, il y a eu une révolte qui voulait secouer le joug romain qui s'avérait de plus en plus pesant. Mais alors, la Macédoine est devenue province romaine. Et la ville de Thessalonique, qui était la plus peuplée, a alors été choisie comme capitale. Donc, Thessalonique, capitale de la province romaine de Macédoine, et cela dès le milieu du IIe siècle avant le Christ. Paul, dans sa lettre, dans les Actes, on parle de la ville de Philippe comme une première ville, ça veut dire une ville d'importance. Mais la capitale de la Macédoine, comme telle, politiquement, c'était Thessalonique. Et en l'an 42, elle a obtenu le statut de ville libre, donc plus autonome, tout en gardant bien sûr son insertion à la veille de ce qui allait devenir l'Empire de Rome, cette fois-ci, seulement une royauté, et bien l'administration impériale a installé à Thessalonique un proconsul, donc à l'approche de l'ère chrétienne. La ville s'est développée, ses installations portuaires ont été agrandies, et à l'époque de Paul, elle est devenue une cité commerciale vraiment florissante où vivent de nombreux étrangers et parmi eux une importante colonie juive. Donc fondée au IVe siècle, ayant connu une importance grandissante jusqu'à devenir capitale de la province romaine de Macédoine, et son développement récent fait que c'est une cité particulièrement importante quand Paul y débarque. D'où, bien sûr, l'importance qu'il accorde à ce lieu stratégique dans son ministère. Ceci dit, je reviens alors au texte de Thessaloniciens, ou plutôt nous commençons à y entrer. Nous avons vu le discernement de l'ensemble en deux grandes parties. Je vous invite à avoir en regard la page 13, qui vous donne une proposition de plan, et le texte lui-même, tel que je vous l'ai donné, d'Hostie, qui tient... tient en 5 pages. Si vous n'avez pas sous les yeux, prenez-le dans la Bible courante, mais moi je vais le suivre dans la version de l'hostie. 5 pages, je le fais arranger pour vous mettre sur chaque page un chapitre, pour la clarté, quitte à laisser un peu de blanc quand le chapitre est plus court. C'est le cas pour le premier chapitre. Nous entrons avec l'adresse et la salutation. Nous allons faire une lecture cursive, comme on dit, courante, et commentée de la lettre. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous, grâce et paix. Paul, avec Sylvain et Timothée. Sylvain ou Silas, hein, c'est le même personnage. Paul était resté seul avec Silas pendant que Timothée allait chercher des nouvelles des Thessaloniciens, mais dès lors que Timothée est revenu, ce sont les trois qui se trouvent à Corinthe, et Paul adresse la lettre de la part des trois. Paul, Silas et Timothée, il l'adresse à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À l'église des Thessaloniciens. On retrouvera, bien sûr, dans les Actes des Apôtres et chez saint Paul, assez souvent le mot « église ». Le mot « église » connote la notion d'appel de ceux qui ont été appelés. Je vous ai dit, le mot « paraclé », c'est la même racine. « Kalein », ou « clé », appelé « auprès ». Alors l'église, c'est « ek kalein », la racine. « Ek klesia » comme substantif. C'est-à-dire ceux qui sont appelés « ek », c'est une préposition qui veut dire « à partir de », « hors de ». Ceux qui sont appelés à partir de la situation où ils étaient, pour être rassemblés dans le Christ. Et il y a un mot latin qui dit aussi la notion d'appel, et qui considère l'aboutissement de cet appel, justement, dans le rassemblement. C'est « con vocatio ».« Vocare », ça veut dire « appeler ». Et comme vocation, une convocation, c'est appeler pour mettre les gens ensemble. Quoi qu'il en soit, que l'on prenne le terme grec qui dit appeler à partir des lieux divers où on se trouve, que l'on prenne le mot latin pour dire appeler pour mettre ensemble, on désigne là un mouvement qui appelle. L'arrière-fond de ce mot ecclésia, que l'on trouve déjà dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est le mot hébraïque de kahal, qui désigne, comme on peut orthographier, Q-A-H-A-L, le kahal, c'est l'assemblée du désert, l'assemblée convoquée justement, à la tente du tabernacle par Moïse. Et vous vous souvenez qu'il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle le livre du Kohelet, c'est la même racine, hein, celui qui rassemble, le rassembleur. Ou, on l'a traduit en grec, justement, parce que ça en est le pendant, l'ecclésiaste, la même racine que ecclésia. Le Kohelet ou l'ecclésiaste, c'est deux manières de désigner le même livre de l'Ancien Testament, l'une selon sa racine hébraïque, kahal, et l'autre selon sa racine grecque, ekkalein, ecclésia. Ceci pour bien sentir la portée de ce mot église qui rappelle, et Paul le redira, et lorsqu'il dira « Dieu qui vous appelle », ça va être ce verbe de kalein, « appeler », Dieu qui vous appelle, cette notion d'appel inhérente à, au corps ecclésial. Alors, dans les évangiles, vous savez que, par contre, le mot « église » est extrêmement rare, il n'apparaît que 2 fois dans tous les évangiles. Et c'est les 2 fois chez Matthieu, dans la mission confiée à Pierre, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, ecclésia. Au chapitre 16 de Matthieu. Et au chapitre 18, une autre occurrence, va trouver ton frère, s'il est fautif, cela seul, puis 2 à 3, 2 à 3, et s'il n'écoute pas, dis-le à l'assemblée de l'église, de l'ecclésia. C'est les 2 seules occurrences du mot église dans les évangiles. Parce que, bien sûr, la naissance et le développement de l'Église comme telle, fondée sur Pierre dans ce passage, mais se déploie après la Pentecôte. Et donc c'est normal que ce soit dans les actes et dans des écrits un peu postérieure à la vie de Jésus que l'on retrouve. Je ferme cette parenthèse qui souligne l'importance de ce mot dans le vocabulaire pauline. À l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous grâce et paix. Il y a cette petite particularité de la première aux Thessaloniciens. D'habitude, le Dieu et Père est signalé comme la source. D'habitude, la salutation qu'on va rencontrer plus tard sera toujours grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'expression a été en quelque sorte anticipée. L'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme s'il était pressé de le dire. Alors le souhait à vous grâce. Voilà pour l'adresse et la salutation initiale. Puis nous entrons dans un premier mouvement d'action de grâce. Vous voyez sur votre plan, c'est comme ça que j'ai intitulé cette partie, premier mouvement de l'action de grâce, et qui est encore global, et qui va courir des versets 2 à 10. Je les lis avec vous, puis les commente. Nous rendons grâce toujours à Dieu pour vous tous, faisant mémoire de vous dans nos prières, nous souvenant sans relâche, de l'œuvre de votre foi, du labeur de votre amour, de la constance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de notre Dieu et Père. Et nous savons, frères aimés de Dieu, que vous êtes ses élus, car notre évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais encore avec puissance, avec Esprit Saint et grande plénitude. Vous savez en effet ce que nous avons été chez vous pour vous. Et vous, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, accueillant la parole parmi bien des afflictions, avec la joie de l'Esprit Saint. De sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. L'Achaïe, c'est la région sud de la Grèce. Donc, c'est une manière de dire toute la Grèce. Macédoine au nord, sud, où se trouve Corinthe, c'est l'Achaïe. Pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais c'est en tout lieu que votre foi envers Dieu s'est répandue, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet ce qu'a été notre arrivée chez vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu, abandonnant les idoles pour être asservi au Dieu vivant, pour être au service littéralement du Dieu vivant, et véritable, et attendre des cieux son Fils, qu'il a relevé d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Voilà ce premier sous-ensemble de l'action de grâce initiale. De quoi Paul rend-il grâce? Bien sûr, d'abord, l'action de grâce liée à la mémoire et à la prière. Je vous ai dit, c'est souvent le cas. On rend grâce en se souvenant et on en fait l'objet d'une prière. Nous rendons grâce toujours à Dieu, pour vous tous, faisant mémoire de vous dans nos prières, nous souvenant sans relâche de l'œuvre de votre foi, du labeur de votre amour, de la constance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien sûr les trois vertus théologales qui sont d'emblée énoncées là. L'œuvre de votre foi est un mot important dans le vocabulaire paulinien. L'œuvre, donc c'est une foi qui va être active. Bien. Le labeur de votre amour, c'est un mot important. Le labeur, ça se dit kopos. K-O-P-O-S, si on transpose kopos. Et c'est un mot qui désigne spécifiquement le labeur, fait d'être à la peine apostolique. La peine qu'on se donne pour l'apostolat. Le labeur de votre amour, la constance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de notre Dieu et Père, qui a été déjà nommé dûment dans l'adresse. Puis pour la suite, vous aurez remarqué que Paul se réfère à l'expérience des Thessaloniciens. Ça va venir intensément au chapitre 2. Nous savons, et vous savez en effet, nous savons, frère bien-aimé, et vous savez ce que nous avons été chez vous, etc. Et Paul va le redire plus loin, vous savez, il les renvoie à ce qu'il savent, mais pour en creuser le sens. Et vous remarquez ici déjà comme un vis-à-vis entre le « nous » des évangélisateurs, en l'occurrence Paul, Silas et Timothée, et le « vous » des évangélisés. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous êtes ses élus, car notre évangile ne s'est pas présenté à vous, en parole seulement, mais encore, et puis, on va trouver, vous savez, retenons ce vis-à-vis entre celui qui dit la parole et le vous ou le tu de son auditoire. Il jouera souvent dans la manière de balancement de la structuration de la pensée de Paul. Nous savons, frères bien-aimés, que vous êtes ses élus, vous avez été appelés par lui, pour reprendre un terme que j'ai commenté, car notre évangile, bien sûr, ce que Paul désigne comme son évangile, ce n'est pas un évangile écrit au même titre que les quatre autres, d'ailleurs, qui ne recevront ce sens spécifique qu'à la fin du deuxième siècle, mais au sens du noyau de sa proclamation de la bonne nouvelle, puisque c'est le sens du mot « evangelion », notre bonne nouvelle, dont le cœur sera ce qu'on appelle le kérigme, la proclamation essentielle de la mort, de la résurrection de Jésus. Puisqu'on se souvient, Paul ne raconte pas les faits et gestes de Jésus, ses miracles, il n'a pas connu de son vivant, mais le noyau de son évangile, c'est de sa proclamation de bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Notre évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais encore. Souvent, Paul joue sur des oppositions, non pas ceci, mais cela. Ou bien, non pas seulement ceci, mais encore cela. On va la retrouver, par exemple, au verset 8. « Mais c'est en tout lieu que votre foi, et puis surtout plus loin, pas en parole seulement, mais encore avec puissance, avec Esprit Saint. » Le mot de puissance, dynamis, qui a donné à quelqu'un de dynamique, puissance est souvent associé à la force de l'Esprit Saint. Puissance de l'Esprit Saint, la puissance de vie de l'Esprit Saint. Mais encore avec puissance, avec l'Esprit Saint, en grande plénitude. Vous savez en effet ce que nous avons été chez vous pour vous. Nous, vous. Et vous, de votre côté, vous êtes devenus nos imitateurs, ceux du Seigneur, accueillant la parole. Donc, l'Évangile ne s'est pas présenté en parole humaine seulement. Accueillant la parole, Hostie a décidé de le mettre avec une majuscule pour bien faire sentir que c'est justement la parole, comme ça va se préciser encore de Dieu lui-même, à travers nos mots humains, la parole parmi bien les afflictions, et un petit peu plus loin, au verset 8, on va lire de chez vous en effet la parole du Seigneur. Donc c'est la parole de Paul, mais à travers ces mots, lui, c'est la parole du Seigneur qui s'est dit. Donc voilà. Cohérent de son vocabulaire, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. Lorsque Paul dit imitez-moi, c'est parce qu'il a conscience d'essayer de son côté au mieux d'imiter le Seigneur. Ce n'est pas lui, le modèle ultime bien sûr, c'est le Seigneur. Nos imitateurs et ceux du Seigneur, accueillant la parole parmi bien des afflictions. Ah, c'est peut-être un aspect de l'imitation en question. Il s'agit d'imiter Paul. Et en amont, le Seigneur, dans leur capacité à porter des afflictions. Parmi bien des afflictions, c'est un autre mot décisif, le mot de thlipsis, qu'on peut écrire T-H-L-I-P-S-I-S, thlipsis, c'est un mot grec important, qui désigne justement les peines et les afflictions liées à l'annonce de l'Évangile. Il y a copos, le labeur, la peine apostolique, et tripsis qui dit les afflictions, les tribulations, persécutions, parmi bien des afflictions, mais en même temps avec la joie de l'Esprit Saint. Le Père a été nommé, Jésus a été nommé, voilà l'Esprit Saint. De sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe, ça veut dire de la Grèce entière. De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais c'est en tout lieu. De nouveau, ce genre d'opposition, non seulement, mais en tout lieu. Paul est pris dans et là, on magnifie un peu le rayonnement de la foi des Thessaloniciens. En tout lieu, que votre foi envers Dieu s'est répandue, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte, et là il va prendre de nouveau ce double point de vue, on raconte à notre sujet ce qu'a été notre arrivée chez vous. Et comment, autre point de vue, vous, vous êtes tourné vers Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça veut dire le tout contraire des idoles. Les idoles ne sont pas vivantes, elles ne sont pas véridiques. Hein? Donc, abandonnant les idoles pour être servi au Dieu vivant et véritable, et perspective finale de chapitre, se tourner vers la venue du Seigneur, attendre des cieux son Fils. Déjà, en deux mots, l'annonce d'un sujet important qu'il a relevé d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Au sens où, si Paul attend avec les Thessaloniciens la venue du Seigneur pour un avenir prochain, il se dit attention, c'est quand même aussi un jour de jugement, mais précisément dans le Christ, ça nous délivre de la peur de cela. Si nous sommes trouvés en lui, nous n'aurons pas à encourir cette colère. Voyez un peu comment cette première vague d'action de grâce est structurée. Il est déjà riche de vocable clé, c'est pour ça que j'ai pris le temps de signaler au passage quelques mots dans nos racines grecques, parce qu'ils sont importants pour toute la théologie paulinienne. Je passe au chapitre 2, et il va reprendre alors ce qu'il a commencé à faire, mais plus en détail, et en racontant davantage. Là, je prends au temps du séjour de Paul à Thessalonique, donc l'action. C'est le point 2, action de grâce reprise dans la mémoire de l'histoire, et ça commence par considérer le temps du séjour de Paul à Thessalonique. Car, vous le savez vous-même, frère, notre arrivée chez vous, donc il va d'abord prendre le point de vue des évangélisateurs, notre arrivée chez vous n'a pas été vaine. Au contraire, après avoir été maltraité et outragé à Philippe, par certains des Juifs, comme vous le savez, nous avons trouvé de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre exhortation ne s'inspire ni de l'erreur, ni de l'impureté, ni de la ruse, mais, puisque Dieu nous a discernés pour nous confier l'évangile, nous parlons, non de manière à plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Les expressions en italique dans votre texte sont le fait que c'est une citation de mots de l'Ancien Testament. Dieu qui éprouve les cœurs et les reins qu'on trouve dans la Bible. Dieu qui éprouve nos cœurs. Jamais non plus nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, ni de prétexte pour couvrir la cupidité. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas non plus recherché la gloire des hommes, ni de vous, ni d'autres, alors que nous pouvions nous imposer comme apôtres du Christ. On voit là qu'il considère que non seulement lui, mais Silas et Timothée peuvent être appelés apôtres du Christ. Apôtre, apostolos, c'est celui qui est envoyé. Apostello, ça veut dire envoyé du Christ. Au contraire, nous nous sommes fait doux au milieu de vous. Comme une mère choisit ses enfants et qu'elle nourrit, ainsi, dans notre tendresse pour vous, nous aurions voulu vous livrer non seulement l'évangile de Dieu, mais nos vies mêmes, parce que vous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frère, notre labeur, kopos, et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à charge à aucun de vous, que nous vous avons proclamé, autrement important, le terme de la proclamation, c'est le verbe du kérim, kérusel, faire connaître, proclamer l'évangile de Dieu. Combien sainte, juste et irréprochable a été notre conduite envers vous, les croyants, vous en êtes témoins, et Dieu aussi. Comme vous le savez, c'est chacun de vous que tel un père pour ses enfants, nous vous avons exhorté, réconforté, adjuré de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc Paul vient de considérer la conduite des évangélisateurs pour souligner comment elle était persévérante, sincère, désintéressée, inspirée par Dieu et pas par des motifs humains. C'était le paragraphe des versets 1 à 7. Puis le paragraphe suivant, la fin du verset 7, au contraire, nous nous sommes faits doux, etc. Vous avez senti qu'il était encadré par une belle image que Paul emploie, comme une mère choisit ses enfants, qu'elle nourrit, au verset 7b. Puis à la fin, nous avons été pour vous tel un père pour ses enfants. Paul, vis-à-vis de la communauté, se sent un cœur à la fois de mère tendre et tout donné et en même temps solidement paternel. Vous aurez remarqué, c'est pour le coup la fréquence des expressions, comme vous le savez, il ravive la mémoire des Thessaloniciens, qui apparaît au verset 1, comme vous le savez, au verset 2, au verset 5, parole flatteuse, comme vous le savez, etc., au verset 9, au verset 11, vraiment, il les renvoie à l'expérience qu'ils ont faite pour en dégager la portée du point de vue de l'attitude désintéressée des évangélisateurs. Puis, il va rendre grâce en prenant le point de vue des Thessaloniciens, des évangélisés. Verset 13. Et voilà pourquoi nous aussi nous rendons grâce à Dieu sans relâche de ce qu'ayant reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueilli. Donc notre message a été désintéressé et vous, votre accueil a été franc. Ayant reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueilli. Et de nouveau, non comme une parole d'homme, mais selon ce qu'elle est vraiment, comme une parole de Dieu. Ça a été dit de la parole des évangélisateurs et les Thessaloniciens se sont mis au diapason, ils ont bien compris qu'il s'agissait non d'une parole d'homme, mais ce qu'on est vraiment comme une parole de Dieu qui agit en vous, energetai, énergis, littéralement, dans le grec, qui produit son énergie en vous, les croyants, ceux qui ont foi. Car vous êtes devenus, frères, les imitateurs des églises de Dieu qui sont dans la Judée en Christ Jésus. Les chrétiens de Judée, autour de Jérusalem. De quel point de vue sont-ils devenus les imitateurs? Parce que vous avez, vous aussi, enduré de la part de vos compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. C'est-à-dire les premiers chrétiens de Jérusalem, les judéo-chrétiens, ceux passés du judaïsme à la foi en Jésus-Christ, étaient malmenés par ceux qui n'y adhéraient pas. Souvenez-vous du début des Actes où Pierre, les apôtres, doivent se justifier devant les autorités, les grands prêtres, etc. Il y a eu des persécutions. Vous avez vous aussi enduré de la part de vos compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. C'est cette portion des Juifs qui résiste à ça. Eux qui ont tué Jésus le Seigneur et les prophètes et nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu et qui sont opposés à tous les hommes. On va s'expliquer sur cette série quand même sévère. Hein? Nous empêchant de parler aux nations pour qu'elles soient sauvées. Ainsi, c'est une citation Genèse, mettent-ils sans cesse le comble à leur péché, mais la colère est arrivée sur eux pour toujours. Pour toujours, c'est eistelos, à son ultime, à son terme. Pour toujours, pas la meilleure traduction. Eistelos est arrivée vraiment à son extrême, son plus haut. Alors, ces versets paraissent sévères, mais ce que Paul est en train de faire, il aide les Thessaloniciens à comprendre les oppositions qu'ils rencontrent dans une série d'oppositions qui remontent beaucoup plus haut. Les souffrances qu'ils rencontrent, ils ne doivent pas s'en effrayer outre mesure, ça fait partie de la condition du croyant. Ils remontent, si vous regardez les jalons qu'il a posés, les prophètes ont été persécutés, Jésus a été persécuté, les chrétiens de Judée ont été persécutés, Paul lui-même a subi pas mal de tribulations déjà jusque-là, et donc les Thessaloniciens participent de cette réalité liée à la condition chrétienne, leur souffrance. Elles sont resituées plus largement. Quand quelqu'un souffre, il dit « Qu'est-ce qui m'arrive à moi ?» L'aider à prendre conscience, malheureusement, tu n'es pas le premier. D'autres ont souffert avant toi pour la cause de l'Évangile. Et comme le Seigneur les a soutenus, il te soutiendra. On a un peu recevoir les paroles. Mais donc, la conduite docile et courageuse dans les épreuves était sa mission. Ensuite, il revient à lui. Donc, les évangélateurs, les évangélisés, et il avance dans le temps. Quant à nous, verset 17, quant à nous, frères, pour un temps privé de vous, de visage mais non de cœur, en descendant là, en Grèce, ils s'éloignaient des Thessaloniciens, ils ne voyaient plus leur visage, mais ils restaient présents sur le cœur, nous n'en avons fait que plus d'efforts pour revoir votre visage. Nous en avions un tel désir. Paul aurait bien aimé pouvoir retourner aux Thessaloniciens, mais c'était un peu risqué encore à ce moment-là, à cause de ses opposants. C'est pourquoi nous avons voulu venir chez vous, moi, Paul, et une et deux fois. Mais le Satan nous en a empêchés. On voit bien que le mauvais est à l'œuvre derrière ces oppositions. Quelle est en effet notre espérance, notre joie, la couronne dont nous nous vanterons devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa venue, final du chapitre, n'est-ce pas vous ? Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. Ce grand désir qu'avait Paul de revoir les Thessaloniciens, et au point de désirer revenir chez eux. Le chapitre se termine par la mention de la gloire. Comme d'autres paragraphes sont terminés par la mention de la gloire. Regardez au verset 6, la fin du premier paragraphe de votre page. Nous n'avons plus, pas non plus recherché la gloire des hommes. Sous-entendu, il y a une autre gloire à rechercher, celle qui vient de Dieu. Rechercher la gloire des hommes. La fin du paragraphe suivant, Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Sa gloire. Et maintenant, c'est une belle expression, vous êtes la couronne dont nous vanterons, vous êtes notre gloire et notre joie. Si Paul va se glorifier, eh bien, c'est en rendant grâce de la foi des Thessaloniciens qui forme pour lui comme une raison de légitime fierté. Vous êtes notre gloire et notre joie. Il nous dit deux fois, quelle est notre espérance, notre joie, la couronne dont nous planterons, n'est-ce pas ? Voilà pour ce chapitre 2. On avance et Paul évoque alors comment il souffrait de cette absence des Thessaloniciens et il a envoyé Timothée. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons décidé de rester seuls à Athènes, comprenant lui et Silas. Derrière ce nous avons, moi et Silas, Sylvain, décidé de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé Timothée, notre frère et collaborateur de Dieu dans l'évangile du Christ. Ça, c'est une belle manière de définir Timothée. Notre frère et le collaborateur, il n'est pas notre collaborateur avant tout, le collaborateur de Dieu dans l'évangile du Christ. Bien sûr, il a de l'estime pour Timothée comme collaborateur, mais il collabore en collaborant à l'œuvre de Dieu lui-même, le collaborateur de Dieu. Collaborateur, ça veut dire celui qui travaille avec la le collaborateur de Dieu dans l'évangile du Christ pour vous affermir et vous réconforter, c'est le verbe de la paraclès, de l'exhortation, vous réconforter, vous encourager, vous exhorter dans votre foi afin que personne ne se laisse troubler par ses afflictions. Vous savez bien, de nouveau vous-même, que nous sommes faits pour cela. Aussi bien, lorsque nous étions chez vous, nous vous prédisions qu'il nous faudrait subir des afflictions, qu'il nous faudrait, à lui, Paul, et à eux, à tous, subir des afflictions. C'est de nouveau le mot de tripsis, l'affliction, la persécution liée à l'Évangile. Et c'est ce qui est arrivé, vous le savez. Voilà pourquoi. Alors il reprend, il a commencé, c'est pourquoi n'y tenant plus. Il reprend, voilà pourquoi n'y tenant plus, j'ai envoyé prendre des nouvelles de votre foi. C'est Timothée qui l'a envoyé. Je craignais que le tentateur ne vous eût tenté et que notre labeur, toujours ce terme de copos, la peine apostolique, que notre labeur ne fût devenu vain. Donc l'envoi de Timothée avait un double but, affermir et réconforter les Thessaloniciens, parce que Paul se doutait bien que la vie chrétienne n'était pas facile pour eux, et d'autre part, recevoir de ces nouvelles, par lui, des Thessaloniciens. Puis, mais voici, verset 6, « Voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous avec de bonnes nouvelles de votre foi. » Littéralement, dans le grec, « nous évangélisant votre foi ». Évangile veut dire « bonne nouvelle ». Et on peut rendre, nous apportant la bonne nouvelle que constitue votre foi. « Avec de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Hein » et un terme de plus, là, la foi et la charité. Votre foi et de votre amour, ainsi que du bon souvenir que vous gardez toujours de nous, ayant de nous revoir le même ardent désir que nous à votre égard. Toujours cette réciprocité. Voilà pourquoi, frères, dans toute notre détresse et affliction, nous avons été réconfortés à votre sujet. Exhortés, il a envoyé Timothée réconforter les Thessaloniciens, et en retour, les bonnes nouvelles le réconfortent, lui, Paul. Nous avons été réconfortés à votre sujet à cause de votre foi. Ce n'est pas n'importe quel réconfort, c'est ce point central. Leur foi tient bon. Oui, maintenant nous vivons, je disais, une espèce de ouf de soulagement. Nous vivons, puisque vous tenez bon dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, pouvons-nous rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous lui demandons, tant et plus, de revoir votre visage et de compléter ce qui manque à votre foi. Ça, c'est typique de Paul. Il se réjouit de la foi des Thessaloniciens qui tient bon, mais il sait que la foi est une démarche à sans cesse laisser grandir, elle doit grandir. Et donc, ce qui manque encore à votre foi. On verra souvent, Paul prend acte de ce qui est déjà bellement acquis et manifeste un désir d'aller plus loin. Un peu le magis, le plus en termes ignatiens. On rencontrera encore ça. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, dirige vers vous notre chemin, et vous, que le Seigneur multiplie et fasse abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous, comme nous pour vous. Votre amour les uns pour les autres, la charité à l'intérieur de la communauté et pour tous. Ce souci aussi d'être ouvert aux autres, de porter un bon témoignage d'amour, comme nous pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs, pour qu'il soit irréprochable en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints, une finale un peu solennelle, je vous avais dit, c'est comme une première vague de conclusion intermédiaire à la fin de cette première partie de la lettre. Notre Père, lors de la venue de notre Seigneur, avec tous ses saints. Donc, on voit comment Paul a reparcouru un peu systématiquement l'histoire, hein, les jalons de ce qui s'est passé, et en rendant grâce et en attestant la force et de l'attitude des missionnaires et aussi le bon accueil, la foi, la persévérance, l'amour des Thessaloniciens. Nous allons passer, sans plus tarder, à la deuxième partie. Les chapitres 4 et 5, c'est la partie plus exhortative. Au reste, frères, on voit bien qu'on est en train de passer à autre chose. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons, peut-on le donner, dans le Seigneur Jésus. C'est toujours dans le Seigneur Jésus. D'une manière de dire, ce n'est pas moi, Paul, en mon seul nom ou à partir de mon seul dynamisme, c'est dans le Seigneur Jésus. Nous sentons que nous devons faire ça de la part du Seigneur Jésus. Nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Ainsi que vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Là, c'est un autre mot important. Comment, littéralement, vous devez marcher. Péripatéo. Marcher. C'est le terme biblique. Marche selon les voies du Seigneur qui désigne la conduite et qui plaît au Seigneur. Comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. C'est péripatéo dans le grec. Une péripatéticienne. Un terme un peu technique, il dit une personne qui marche sous le trottoir, celle qui fait le trottoir. Mais ici, le sens du terme est plus noble. Hein. Comment vous pouvez vous conduire, marcher dans les voies du Seigneur pour plaire à Dieu. Et c'est bien ainsi que vous vous conduisez. Il prend acte déjà de ce qu'il faut. Aller de progrès en progrès. Mais
victoire, aller plus loin.
Allez, de progrès en progrès. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur, de par le Seigneur Jésus. Oui, la volonté de Dieu, pas simplement de Jésus, de son Père lui-même, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache conserver son corps en sainteté et honneur, sans se laisser aller aux emportements de la convoitise, comme les nations qui ne connaissent pas Dieu, expression tirée de Jérémie ou Ézéchiel. Que personne dans cette affaire ne cause de tort à son frère, ou ne l'exploite, parce que le Seigneur tire vengeance, de nouveau c'est des mots un peu forts, mais tiré de psaume ou du Deutéronome, tire vengeance de tout cela, comme nous vous l'avons prédit et attesté. Dieu, en effet, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais au contraire, donc pas ceci, mais cela, mais à la sanctification. Celui-là donc qui rejette ses préceptes, ce n'est pas un homme qu'il rejette, mais Dieu. Ce n'est pas une parole humaine, une parole de Dieu. Ce n'est pas un rejet humain, c'est un rejet de Dieu lui-même. Mais Dieu, lui qui vous donne son esprit, l'Esprit Saint. La source de la sanctification à l'encontre des déviances et de l'impureté, c'est l'Esprit lui-même. L'Esprit, c'est pour ça qu'il le nomme clairement Saint, ici, l'Esprit Saint. On voit bien, dans cette première vague de souhaits, Paul met en garde contre les mésusages du corps et avoir une bonne conduite. On passe ici dans le registre plus seulement de la foi, mais des mœurs, la foi et les mœurs. Puis, plus positivement, sur le registre, la question du comportement fraternel. Quant à l'amitié fraternelle, vous n'avez pas besoin qu'on en écrive. Vous-même, en effet, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Appris de Dieu, c'est un mot théodidacticum, enseigné de Dieu directement, en un seul mot. Vous avez été enseigné de Dieu pour vous aimer les uns les autres. Et c'est bien ainsi que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à aller de progrès en progrès, toujours ce mouvement, plus loin. Ayez à cœur de vous tenir tranquille, de vaquer chacun à vos affaires et de travailler de vos mains, comme nous vous l'avons prescrit. Ainsi, vous vous conduirez dignement envers ceux du dehors et vous n'aurez besoin de personne. L'enjeu, c'est non seulement l'édification de la communauté de l'intérieur, mais le témoignage à rendre pour ceux du dehors. Donc, première série d'exhortations. Pureté, amitié fraternelle, travail, résume Hostie dans son sous-titre et c'est bien choisi. Puis, il y a un passage un peu plus doctrinal qui répond à l'interrogation des Thessaloniciens. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui s'endorment, comprenons, dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme tous les autres, les non-croyants, qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis par Jésus, Dieu les amènera avec lui. Verset 14. Décisif. On ne peut pas croire que Jésus est mort et ressuscité sans croire qu'en même temps les croyants qui sont déjà morts vont ressusciter. De même, ceux qui se sont endormis par Jésus, Dieu les amènera avec lui. Voici en effet ce que nous vous disons par la parole du Seigneur. Pas simplement ma manière de voir à moi, Paul. Par la parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui serons restés pour la venue du Seigneur, qu'il espère être de ceux qui seront encore vivants au retour du Seigneur, qui seront restés par la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, les chrétiens qui sont déjà morts. Car, ça c'est un petit schéma de la parousie, sur fond d'image biblique, car un signal donné à la voix d'un archange, au coup de trompette de Dieu, le Seigneur, Jésus, comprenons, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ceux qui sont morts en adhérant au Christ ressusciteront d'abord. On peut le comprendre, les morts en Christ ressusciteront d'abord, ou bien les morts en Christ ressusciteront d'abord. Les deux peuvent jouer. Ensuite, donc il y a un ordre des choses. C'est d'abord ceux qui se sont déjà endormis qui ressusciteront, ensuite nous les vivants, qui seront restés, nous serons emportés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc il y a comme une sorte d'assomption, dit Paul, de ceux qui à ce moment-là seront encore vivants. Ils ne passeront pas par la mort corporelle, ils sont d'emblée comme emportés ensemble avec eux dans les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous êtes inquiets au sujet de la résurrection, hein, Paul l'annonce avec fermeté et distingue même la résurrection de ceux qui seront déjà morts et l'assomption en Dieu de ceux qui seront encore vivants en ce jour-là. Et ça doit être source de réconfort. Réconfortez-vous, c'est toujours le verbe de l'exhortation, la paraclèse. Hein. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, je termine par là. Vous voyez que la résurrection est envisagée comme l'entrée dans un être avec. Dieu les amènera avec son Fils Jésus. Au verset 14, la fin du verset 14. Nous serons emportés avec eux, les autres, hein, donc la communion ecclésiale. Mais pourquoi ? Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ça, être dans la vie des ressuscités. Ce n'est pas une survie anonyme, je dis volontiers dans les homélies de funérailles, c'est être avec quelqu'un, avec lequel on a commencé à vivre sur cette terre, avec le Seigneur, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est ça qui doit être notre joie, d'être avec lui pour toujours. C'est ça la béatitude céleste, c'est de partager la joie, la gloire de Jésus lui-même. Puis, nous allons arrêter là, puisque le temps est écoulé. Au dernier chapitre, que nous lirons la fois prochaine, Paul va s'intéresser à compléter cette considération de la question de la résurrection sur le moment. Hein? Parce que quelqu'un pourrait dire, c'est bien, mais à quel moment est-ce que cela va arriver? Et Paul va s'exprimer là-dessus. De la même manière que dans le grand chapitre de la première aux Corinthiens sur la résurrection, à Corinthiens 15, il va d'abord établir le fait de la résurrection. Nous sommes promis la résurrection, et puis sa modalité, pas son moment, mais son comment. Parce que quelqu'un peut lui demander, oui, mais avec quel corps va-t-on ressusciter? Qu'est-ce que c'est que ce corps glorieux? Il va s'exprimer là-dessus. Mais de même ici, il procède en deux temps. Hein? Il affirme que nous serons promis à la résurrection ou l'assomption en Dieu, et puis il va s'exprimer un peu sur le moment, non pas pour pouvoir nous préciser, mais vous verrez, comme Jésus le fait dans l'Évangile en disant, il sera soudain comme un voleur, et la meilleure manière de ne pas être surpris par ce moment, c'est d'y être prêt dans le service la veille, être éveillé dans la foi à ce moment. Je vous remercie de votre attention. La fois prochaine, nous terminerons donc la première aux Thessaloniciens. Je dégagerai brièvement quelques mots de synthèse. Nous lirons la deuxième aux Thessaloniciens et je crois que nous aborderons déjà la première lettre aux Corinthiens.